I don't know of any program in Uganda.
Of course not.
يصلون الليل بالنهار استعدادا.
¿Cuál sería su reacción?
21 веке гражданка Райс вспомнила.
这两天原本居住在祁连县偏远牧区的穆里达家，正
忙着和邻居们聊天。
Todos juntos.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à 11h50, une émission préparée ce matin par Clément Salazar, aussi Audrey Rameau, Tiffaine de Rocchini, Xavier Martinet, réalisée par Pelleret Legras et mise en onde ce matin par Clément Bergman. Toute cette semaine, Culture Monde va emprunter les chemins sinueux et souvent semés d'embûches de la paix. De l'annonce de pourparlers de paix entre le régime de Damas et l'opposition syrienne, à la pacification en cours entre la Colombie et les guerrieros des FARC, en passant par les errements des Nations Unies, pourtant instance internationale supposée garantir la paix mondiale. La paix comme horizon, ça sera notre série cette semaine. Et ce matin, renouer le dialogue, direction l'Afghanistan et le Pakistan. Le président afghan et le premier ministre pakistanais ont décidé de relancer le processus de paix avec les talibans afghans. Une annonce rendue publique le 27 décembre dernier qui a provoqué, à peine deux jours après, un attentat sanglant au nord-est du Pakistan.
Monaur Rahil Sharif, dar khanaye Harif, rais-e setad artesh Pakistan dar Kabul, ba donbal chist.
J'étais en train de faire ma prière chez moi lorsque j'ai entendu l'explosion. C'était une énorme explosion. Et je me suis précipité à l'extérieur et là j'ai vu des corps partout. C'était comme le jour du jugement dernier. Il y avait des bouts de corps éparpillés sur le sol et les secours sont arrivés pour ramasser les corps et les mettre dans des véhicules.
23 morts donc à Mardan, une des zones pashtoun tribales du nord-est du Pakistan revendiquée par un groupe taliban pakistanais. Deux jours plus tôt, on apprenait qu'une réunion quatripartite allait être convoquée à l'initiative de la Chine et des États-Unis, le vieux serpent de mer des négociations afghano-pakistanaises sur les insurgés talibans afghans réapparaît donc. Après un retrait finalement partiel des troupes américaines, les insurgés ont en effet réinvesti le territoire afghan pour la première fois depuis la chute de leur régime en 2001. Les talibans s'emparait fin septembre de Kunduz, ville afghane, ville majeure de plus de 300 000 habitants. Revers pour les autorités afghanes et en particulier pour son président, Ashraf Ghani, qui avait promis lors de son élection en 2014 de ramener la paix dans ce pays déchiré par plus de 30 ans de conflit. Revers aussi pour les autorités américaines sur le départ. Ces dernières n'ont pas tardé à répliquer. Quelques jours après, l'hôpital de MSF à Kunduz, qui abritait supposément des insurgés, était pilonné. Crime de guerre pour MSF, silence radio du côté des États-Unis. Ces négociations, largement appuyées par la puissance chinoise également, dont il faudra parler, ne concernent que les talibans afghans. Mais le Pakistan a aussi ses insurgés, le TTP, Tehrik-i-Taliban Pakistan, et sa faction sécessionniste, Jamaat-ul-Ahrar. Nous en parlerons d'ailleurs au cours de cette émission avec Saifulan Khan Massoud, directeur du Fatah Research Center, Fatah du nom justement des zones pashtounes autour de cette ligne d'urance et cette frontière afghano-pakistanaise tracée en 1893 par ce colonel britannique du même nom pour séparer l'Empire des Indes de l'Afghanistan turbulent déjà à l'époque. Et puis on parlera également de la Libye, parce qu'en Libye aussi des pourparlers semblent poindre. Même si l'horizon de la paix reste lointain, après des échecs à répétition des médiations onusiennes, les deux parlements de Tobrouk et de Tripoli peuvent-ils parvenir à s'entendre? En tout cas, un accord a été trouvé, même si sa reconnaissance par les différentes parties est difficile. On en parlera tout à l'heure avec Patrick Hamzadeh. Mais d'abord, pour évoquer cette zone, ces discussions autour des talibans afghans, nous avons invité ce matin Karim Pakzad. Bonjour Karim Pakzad.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes chercheur à l'IRIS, un spécialiste du Pakistan, de l'Afghanistan, mais également de l'Irak et de l'Iran. Vous connaissez bien, vous intervenez régulièrement sur notre antenne et puis vous êtes également ancien professeur de sciences politiques à Kaboul. Kaboul, justement, le Pakistan et l'Afghanistan ont indiqué, c'était il y a quelques jours, la semaine dernière, le 27 décembre, qu'ils comptaient réunir avec la Chine et les États-Unis dès les prochains jours, dans une dizaine de jours, un certain nombre d'acteurs pour relancer des pourparlers de paix entre talibans afghans et Kaboul. On imagine, Karim Pakzad, que cet attentat qui intervient quelques heures à peine après l'annonce de cette relance du dialogue, c'est une manière pour les talibans d'arriver tout simplement en position de force à la table des négociations.
Oui, vous avez bien souligné deux aspects de la situation à ce moment, au jour d'aujourd'hui. Et c'est d'abord l'annonce de la reprise des négociations entre l'Afghanistan et les talibans, parce qu'il faudrait savoir que ces négociations premier round de ces négociations avait été déjà commencé en juin de l'année dernière, de 2015. Cette première réunion qui a eu lieu au Pakistan, toujours sous le patronage des États-Unis et de la Chine, était assez positif d'après le dire des participants, aussi bien de côté des talibans qu'au de côté des Afghans. Il aurait dû reprendre très vite, fin juillet, la deuxième round de ces négociations. Entre-temps, il y avait une demande majeure qui s'est produite en Afghanistan, où c'est la mort de chef suprême des talibans, Mollah Omar, suivi par un conflit et même des affrontements armés à l'intérieur même des talibans pour la succession de Mollah Omar.
Sachant que ce Mollah Omar, a priori, est mort déjà il y a quelques années, déjà, mais voilà. l'annonce a été faite cette année, cet été, et ce qui a évidemment participé à l'arrêt de ces négociations.
Absolument, cette annonce a été destinée, tout probablement, c'est pour empêcher que ces négociations se poursuivent. Mais entre dans cette situation-là, Mollah Mansour, qui est connu pour être le protégé de Pakistan, a pris le pouvoir. Aujourd'hui, c'est Mollah Mansour qui dirige. Moi, je pense que c'est un élément assez important pour l'avenir de la paix dans cette région. C'est parce que d'abord, aujourd'hui, franchement, c'est la paix dépend. Au niveau des Afghans, dépendent plutôt de la volonté des talibans que de la volonté de Kaboul. Kaboul est contrainte. Kaboul est contrainte de non seulement de proposer une négociation, mais de même accepter suffisamment des conditions de l'autre partie parce que la principale demande de la population aujourd'hui, c'est la paix. Et donc la paix, c'est un élément essentiel pour...
Oui. Allez-y, je vous en prie. C'est vraiment essentiel pour...
Les Afghans.
On va revenir évidemment sur ces négociations, sur les acteurs, sur les enjeux de cette négociation, mais on a aussi été rattrapé par l'actualité Karim Paxad ce week-end, puisque vous avez entendu cet attentat contre une base militaire indienne, cette fois, dans le nord du pays, qui a fait 8 morts, dont 5 membres du commando terroriste. L'armée indienne nous indique qu'a priori, il s'agit d'hommes qui seraient les membres du groupe islamiste Jaïch et Mohamed, qui a été créé en 2000. C'est une attaque qui n'a pas été directement revendiquée, mais elle survient là aussi quelques jours après la visite surprise du Premier ministre indien Narendra Modi du côté du Pakistan. On sait que ce Premier ministre indien Narendra Modi, il est passé pour rencontrer son homologue Nawaz Sharif. Probablement qu'il a été question de ces négociations également. Est-ce qu'il faut voir aussi cette attaque comme une tentative d'enrayer ce qui ressemble à une forme de rapprochement quand même entre l'Inde et l'Afghanistan, en tout cas une tentative de rapprochement? Comment vous analysez les choses, vous, Karim Paxad, cet attentat ce week-end?
Oui, en fait, il faudrait dire qu'effectivement, la situation politique ou militaire dans cette région, que ce soit en Afghanistan, que ce soit au Pakistan, est très compliquée, très complexe. À titre d'exemple, vous avez commencé l'émission en soulignant l'attentat sanglant à Mardan, dans la zone quasi tribal au nord-ouest du Pakistan. En fait, cet attentat-là avait un caractère particulier. La revendication de ceux qui ont commis cet attentat était de demander aux chiites, parce que les victimes de cet attentat, c'était des chiites pakistanais qui sont présents à Mardan. Et l'objectif de cet attentat, c'était, si vous continuez à envoyer des hommes en Syrie pour se battre aux côtés de l'armée syrienne, nous continuerons ces attentats. Vous voyez que, par exemple, comment les événements dans cette région s'est intercalés, interposés, ils ont des relations entre elles. Or, cet attentat avait ce caractère-là, alors que l'attentat contre la base indienne, c'était probablement, comme vous avez bien souligné, est lié à l'activité très récente de Modi, le premier ministre indien qui est allé en Afghanistan, inaugurer le siège du Parlement afghan, qui a promis le monde et les merveilles aux Afghans, parce que l'Inde, quand même, est l'un des principaux partenaires de l'Afghanistan. Et c'est l'un des éléments de conflit dans cette région, notamment du côté du Pakistan. Or, cet attentat, de toute évidence, était destiné à envoyer un message, non seulement à l'Indienne, à envoyer un message à Nawaz Sharif.
Premier ministre pakistanais.
Parce qu'il faudrait savoir qu'au Pakistan même, l'approche qu'a l'armée où son service, redoutable service de renseignement ISI, et le gouvernement civil n'est pas la même chose. Au Pakistan, il faudrait savoir pour une fois pour toutes que l'affaire de la politique étrangère dans des grands dossiers, notamment l'Inde et le Pakistan, et le dossier nucléaire de Pakistan, est entièrement aux mains de l'armée pakistanaise. Mmh. De temps en temps, le gouvernement civil, dans Sharif ou dans le passé, Zardari ou autrefois Benazir Bhutto, prenait des décisions politiques, annonçait des décisions, mais ils ne pouvaient pas avoir le jour tant que l'armée n'avait pas donné leur caution ou leur accord. C'est la raison pour laquelle moi, je ne pense pas qu'aujourd'hui, il y a un accord entre l'armée pakistanaise et le gouvernement civil en ce qui concerne l'approche indienne de la politique étrangère pakistanaise.
On va revenir évidemment sur ces négociations, mais je voudrais bien comprendre les choses sur l'Inde. Est-ce que en gros, l'Inde est en train de jouer le rôle que joue par exemple la Chine à l'égard du Pakistan aujourd'hui avec l'Afghanistan? Et puis, comprendre tout simplement une chose, ces négociations, on va voir quatre parties, les talibans afghans, les pakistanais, la Chine et les États-Unis. Pourquoi l'Inde ne fait pas partie de ces négociations, de ce dialogue?
Parce que le Pakistan ne veut pas que l'Inde intervienne dans cette situation. Parce que l'Inde lui-même, il ne souhaite pas entrer dans ce processus, parce qu'à ce moment-là, l'Inde accepterait quelque part qu'il intervient dans ce conflit. Voilà, le rôle de l'Inde vis-à-vis de l'Afghanistan et le rôle de la Chine vis-à-vis du Pakistan sont différents. Mmh. La Chine est un partenaire stratégique, un partenaire économique d'abord, un partenaire stratégique au Pakistan. L'Inde, au contraire, dans la vision des Afghans, notamment dans la vision des Pakistanais, c'est un pays qui utilise l'Afghanistan comme un arrière-cours pour utiliser éventuellement contre le Pakistan. C'est cet élément-là qui fait de l'Inde un rival ou si vous voulez, partie prenante de conflits ou les yeux des Pakistanais de conflits afghans.
Mais dites-moi, Karim Pakzad, il est très rare de voir la Chine s'immiscer dans les affaires extérieures, dans les affaires des autres pays. On la voit assez peu se poser en médiateur dans des conflits qui ne la concernent pas directement et pour cause. En gros, je ne m'intéresse pas à vos affaires, ne vous intéressez pas aux miennes. Pourquoi est-ce que là, la Chine se pose en médiateur? Pourquoi est-ce qu'elle fait précisément partie de ce dialogue-là qui va commencer dans une dizaine de jours? Au fond, quel est son intérêt? Quel est l'intérêt de Pékin dans tout ça?
Oui, il faut le situer, je crois, à très long terme. Et à ma connaissance, c'est la première fois, en fait, que la Chine fait un tel geste politique. L'intérêt de la Chine à long terme, et même à moyen terme, est énorme en Afghanistan. Afghanistan, c'est un pays pauvre, actuellement. C'est du pays en guerre depuis 30 ans. Mais l'Afghanistan, c'est un pays où son sous-sol regorge des minerais, notamment des minerais rares. Cela fait que même pendant la période de tension de guerre, c'est-à-dire depuis une dizaine d'années, malgré cette situation de guerre, la Chine a énormément investi en Afghanistan. Et où? Dans l'extraction des matières premières, de cuivre, de pétrole, etc. Donc, il y a cet élément-là. Deuxième élément...
Il y a la question des ressources, Karim Pakzad, ouais. Mais il y a aussi une question qui est très importante pour Pékin, c'est qu'on sait la Chine très préoccupée par la question du terrorisme islamiste. Alors, de façon légitime ou pas, avec des objectifs qui dépassent peut-être la question purement sécuritaire, mais on sait que, par exemple, la question ouïghour, cette Absolument. Minorité islamiste turcophone du Xinjiang, on a vu là récemment l'expulsion de cette journaliste de l'Obs à cause de son travail sur cette minorité ouïghour. Est-ce que cette question du terrorisme islamiste, elle joue aussi dans son implication dans ce dossier-là?
Absolument, ces deux éléments que je voulais souligner, je ne reviens pas, vous avez tout dit dans cet élément-là, ça se pèse énormément parce qu'on a quand même assisté à différents attentats de type islamiste dans la région de Xinjiang, que chez les Uyghurs, qui inquiète énormément la Chine. Et puis un troisième élément dans la politique chinoise à long terme, c'est qu'en fait, si la Chine a accepté malgré la présence américaine en Afghanistan, et parfois même il a souhaité, parce qu'à l'époque où Al-Qaïda était très actif en Afghanistan, à l'époque où les talibans n'acceptaient aucune solution négociée, à ce moment-là, la Chine et même la Russie acceptaient la présence. Mais à long terme, la Chine souhaiterait que les Américains quittent la région. Quand est-ce que les Américains pourraient quitter l'Afghanistan, une fois que la paix se sera installée en Afghanistan, que les relations entre l'Afghanistan et le Pakistan soient normalisées? Voilà, la Chine travaille dans ces trois directions. La Chine, voilà, il a vu que là, il a un intérêt stratégique à long terme, pas en Afrique, pas en Amérique latine, pas à 10 000 kilomètres, mais juste
mais à ses portes.
À ses portes. C'est la raison pour laquelle la Chine a décidé d'intervenir au point où il a à deux reprises invité les délégations des talibans de se rendre en Chine. Ce que c'est une sorte de reconnaissance de facto de l'existence du mouvement des talibans.
Et ça c'est une nouveauté. Alors on va se rapprocher évidemment de ces négociations, mais encore un petit mot sur la Chine, parce que c'est intéressant de la voir arriver dans ce dossier-là. Il y a cette question du terrorisme islamiste. Est-ce que la Chine, est-ce que Pékin craint la montée en puissance de l'État islamique et de son idéologie sur son propre territoire, j'entends. Vous avez probablement vu en 2015, on a vu un moment au cœur de l'année, un djihadiste combattant en Syrie originaire de la Chine. Alors, on s'était demandé s'il y allait en avoir d'autres. Je crois qu'à ma connaissance, il n'y en a pas eu d'autres. Mais est-ce que c'est quelque chose que Pékin craint?
Oui.
Et donc, est-ce que c'est aussi une manière, finalement, de se poser comme, eh bien, combattant, comme tous les autres pays, dans la lutte anti-Daesh?
Absolument. Vous avez tout à fait raison de souligner cet élément assez nouveau, c'est-à-dire après l'apparition de Daesh ou de l'État islamique dans cette partie du monde. Pourquoi je dis dans cette partie du monde? Parce qu'en France ou en Europe, on a tendance de ne voir que l'Irak et la Syrie. Alors que Daesh a commencé à s'implanter ailleurs et notamment dans la province, dans le gouvernorat de Khorasan. Qu'est-ce que c'est le gouvernorat de Khorasan? C'est le gouvernorat que Daesh a mis en place qui regroupe le Pakistan, l'Afghanistan, l'Asie centrale, l'Iran, enfin, toute cette région-là, jusqu'à l'Inde. Or, l'État islamique commence à vraiment s'implanter, notamment, il a commencé à s'implanter dans les zones tribales pakistanaises. D'abord chez les éléments radicaux de TTP, c'est-à-dire mouvement des talibans pakistanais. À partir de là, aujourd'hui, ils sont très, très actifs et même présents massivement dans la province de l'Est de l'Afghanistan. Et il y a un mois, Daesh a inauguré sa propre radio de propagande en langue afghane en Afghanistan. On connaît le nombre des militants de l'État islamique originaire de l'Asie centrale. On ne connaît pas encore le nombre, au moins moi, je ne connais pas encore le nombre des militants originaires de Xinjiang chinois au sein de l'État islamique. Mais
c'est une crainte.
Mais peu importe.
Ouais, mais sur l'Afghanistan, on sait que Daesh a beaucoup accru justement son influence en Afghanistan ces derniers mois. Il y a un rapport qui est paru au mois de septembre dernier d'un comité d'experts des Nations Unies qui citait des estimations des forces de sécurité afghanes selon lesquelles environ 10% des membres de l'insurrection active dominée par les talibans sont des sympathisants de Daesh. 10%. D'abord, quel crédit accorder justement à ce chiffre? Et puis, globalement, quel poids pour Daesh dans cet Afghanistan? Et en quoi l'émergence de ce nouvel acteur, au fond, rebat les cartes?
Oui, rebat les cartes parce que, contrairement au mouvement des talibans, c'était en même temps un mouvement tribal, un mouvement ethnique, fondé sur les Pashtuns. L'État islamique est un mouvement qui dépasse les frontières ethniques, qui englobe toutes les ethnies, toutes les nations. C'est la raison pour laquelle, si l'État islamique s'implante en Afghanistan, il pourrait avoir que les militants extrémistes des autres ethnies, sunnites, ouzbeks, tajiks, et d'autres adhèrent également au mouvement de l'État islamique en Afghanistan qui dépasse le cadre des Pachtounes. Et malheureusement, cela s'est produit. Lorsque les autorités afghanes donnent le chiffre de 10%, pour moi, c'est crédible. Pourquoi c'est crédible? Parce que je sais dans quelle partie de l'Afghanistan ils sont présents. Par exemple, dans le sud de Hazarajat, au centre, ils ont mené des activités contre les chiites parce qu'ils considèrent que les chiites ne sont pas musulmans et qui sans arrêt, ils coupent les têtes des gens, des femmes, des enfants. Au nord, par exemple, on sait que les militants de l'ancien parti qui s'appelait Mouvement islamiste de l'Ouzbékistan, ils sont maintenant adhérés à Daesh.
Donc pas de doute sur le fait qu'ils sont actifs et de plus en plus actifs, puisque c'est la question du dialogue.
Je peux ajouter un élément qui est extrêmement important et inquiétant dans cette région de l'Or. Récemment, le gouvernement afghan, à la demande de la société civile, a arrêté plusieurs dizaines d'étudiants de l'université de Nangarhar à l'est de l'Afghanistan, des étudiants qui manifestaient en faveur de Daesh, avec le drapeau noir de Daesh. Donc, l'influence de Daesh est très grandissante en Afghanistan. C'est un élément d'inquiétude pour la Chine comme pour les autres.
Ces sympathisants de Daesh, justement, puisque c'est la question du dialogue qui nous intéresse aujourd'hui par Impakzad, évidemment, ils sont opposés aux négociations qui vont se tenir maintenant dans une dizaine de jours.
Absolument. Ils sont pour l'instauration d'un khilafat universel. Donc, la fête universelle, ils ne sont pas pour un État islamique afghan ou un État islamique pakistanais, contrairement à Al-Qaïda ou contrairement aux talibans, que leur vision est limitée uniquement en Afghanistan.
Et est-ce qu'ils ont un pouvoir perturbateur suffisamment fort pour empêcher le dialogue?
Pour l'instant, le mouvement des talibans, ce qu'on appelle le mouvement officiel, on appelait le conseil de Quetta, c'est-à-dire Mullah Massoud, successeur de Mullah Omar, qui a l'entier soutien de talibans, de Pakistan, contrôle. Mais il contrôle parfois en affrontement avec les Daesh. Aujourd'hui, en Afghanistan, couper la tête, c'est de deux côtés. On a assisté il y a quelques mois dans une région de l'est de l'Afghanistan où Daesh a coupé la tête des militants de talibans. Et récemment, on a assisté l'inverse. Donc, il y a une situation inquiétante qui se développe.
Une guerre pour le pouvoir.
Je voulais dire une guerre pour imposer une sorte d'idéologie, voilà, de conception extrêmement inquiétante de l'islam. Mais quand même, le Taliban, surtout s'il entre dans un processus de négociation, c'est-à-dire qu'ils ne seront plus de se battre contre l'armée gouvernementale, à ce moment-là, les Talibans auront la possibilité d'empêcher que Daesh progresse.
Quels vont être, Karim Pakzad, les enjeux des négociations? Qu'est-ce qu'on va discuter?
On a eu des éléments.
Répartition de pouvoir, probablement.
Absolument. On a eu même, avant le début du premier round de négociation, au début de l'année 2015, lorsque la négociation commençait, Taliban qui ont annoncé. On savait pas encore que Mullah Omar est déjà mort, mais Mullah Mansour avait le pouvoir d'ores et déjà. Or, Mullah Mansour a annoncé les revendications des talibans. C'est-à-dire, on a même un document écrit dans lequel les talibans demandent ceci, cela.
Et c'est quoi ceci, cela? Il y a quoi dedans? Qu'est-ce qu'on demande?
Voilà, ce qu'ils demandent, si vraiment, dans les négociations, pour entrer dans le gouvernement de Kaboul, c'est-à-dire une sorte de coalition, ils ne demandent pas grand-chose en termes de partage de pouvoir. Par exemple, dans cette lettre, ils ne demandent pas le ministère des Affaires étrangères, ils ne demandent pas le ministre de la Défense, ils ne demandent pas le poste de Premier ministre ou ministre ou président de la République,
alors, qu'est-ce qu'ils
etc.
Demandent
ils demandent les ministères qui ont un lien avec la société. Par exemple, ils demandent le ministère de la Culture, ils demandent le ministère de la Guidance religieuse, ils demandent les ministères des réfugiés, enfin tout ce qui a à faire avec la société. Et cela saute aux yeux quand en fait les talibans négocient avec un projet précis.
Il pourrait obtenir gain de cause. Kaboul serait prêt éventuellement à lâcher un certain nombre de portefeuilles.
Absolument, ça c'est il y a pas de problème. L'objet de négociation, c'est que les talibans déposent des armes, qui entrent dans une coalition avec le gouvernement Kaboul a annoncé que Kaboul est prêt même de modifier certaines parties de la constitution afghane, à l'exception de chapitre 1, chapitre qui définit la nature du régime, les obligations des citoyens et de l'État. C'est-à-dire Kaboul, aujourd'hui, se trouve... n'a pas de choix.
Mais les États-Unis vont laisser faire ça?
Absolument, il n'y en a aucune souci. Les États-Unis ont annoncé depuis longtemps que les talibans ne sont pas des terroristes pour eux. Vous rendez compte?
Ah, les choses sont vite, hein?
Vous rendez compte que cette guerre a commencé, c'est-à-dire plus de 14 ans d'engagement des États-Unis, de l'OTAN, avec ses alliés. 84 soldats français ont donné leur vie en Afghanistan pour lutter contre le terrorisme, évidemment. Aujourd'hui, et les États-Unis ont annoncé que les talibans ne sont plus des terroristes. Donc, il n'y a aucune difficulté pour les États-Unis d'accepter cela. Mais de toute façon, moi, je suis parmi ceux qui pensent qu'en fait, le droit de l'homme, la démocratie, les élections, etc., tout cela en Afghanistan ou ailleurs dans cette partie du monde pour les États-Unis, c'est une couverture pour expliquer leur engagement. Sinon, vous voyez, ils se tiennent à fond depuis des décennies des pays tels que l'Arabie Saoudite où il n'y a aucune liberté démocratique.
Mais Karim Pakzad, à vous entendre, finalement, rien ne s'oppose à ce qu'on accorde ces revendications aux talibans, puisque Kaboul, visiblement, est prêt à lâcher des portefeuilles, puisque les États-Unis ne s'y opposeront pas, évidemment. Le Pakistan y est favorable, ça va se faire. Donc cette année, en gros, en 2016...
Non, il y a un problème énorme.
Lequel?
Le problème énorme, c'est qu'il faudrait convaincre le Pakistan de limiter leur exigence vis-à-vis du succès d'un plan de paix. Ce que les Afghans craignent, en fait, ils ne craignent pas les talibans définitivement, parce que les Afghans pensent que si jamais le Pakistan décide que la paix revienne en Afghanistan, qu'ils fassent pression sur les talibans. Par exemple, de couper l'acheminement des armes, des vivres aux talibans. Les talibans se fondront. Afghanistan, en réalité, négocie avec le Pakistan, via les talibans. Mais c'est avec le Pakistan qui négocie. Mais de toute façon, les négociations qui vont commencer dans 10 jours, ce sont pas des négociations entre les Afghans et les talibans. Sont des négociations
entre
Afghanistan et Pakistan sous supervision de la Chine et des États-Unis.
France Culture, Culture Monde par Florian Delorme.
Culture Monde cette semaine avec la paix comme horizon et aujourd'hui renouer le dialogue. C'est notre sujet ce matin avec Karim Pakzad. On va retrouver un nouvel invité. On parlait en début d'émission de cet attentat la semaine dernière à Mardan, revendiqué par les talibans pakistanais du groupe Jamaat-ul-Ara. 2 jours après, à peine l'annonce d'une reprise des pourparlers de paix avec les insurgés afghans, il y a un an justement, ce groupe condamnait l'attentat le plus sanglant de l'histoire moderne du Pakistan. L'attaque contre une école militaire de Peshawar, 141 morts dont 132 enfants. C'était le 16 décembre 2014, revendiqué par cette organisation, Tehrik-e-Taliban Pakistan, le TTP, principale organisation de talibans pakistanais, dont Jamaat-ul-Ahrar s'était éloigné quelques mois auparavant. On va retrouver Saifullah Khan Massoud, qui est le directeur du Fatah Research Center, un cercle de réflexion basé à Islamabad. Fatah qui désigne ces zones tribales pashtounes au nord-ouest du Pakistan, théâtre tristement privilégié de ce conflit armé dont Peshawar est la capitale. Saifullah Khan Massoud connaît très bien ces groupes insurgés qui y prolifèrent et le paysage complexe et éclaté, vous allez le voir, des talibans pakistanais. Le Pakistan s'engage dans un processus de paix avec les talibans afghans, mais quid de ses propres insurgés? Quelle relation aussi entre talibans afghans et talibans pakistanais? Je vous propose d'écouter Saifullah Khan Massoud. Il est au micro de Clément Salazar.
Jamaat-ul-Ahrar est l'un des nombreux groupes talibans partis en Afghanistan à la suite de la répression militaire pakistanaise dans les zones tribales. Ce n'est pas le plus grand groupe, mais en raison de sa filiation, il a son importance. Vous savez, le nom complet du groupe est TTP, Jamaat-ul-Ahrar. Au début, il s'agissait de membres de la Jamaat-ul-Ahrar, une organisation présente au Pendjab et ailleurs dans le pays. Et cette organisation a noué une alliance avec le TTP et ses factions les plus importantes, sous le commandement d'Omar Khalid, originaire de l'agence de Mormand. D'ailleurs, tous les groupes talibans ne sont pas opposés au pourparlers. Uniquement celui-ci, qu'on dit très proche des dirigeants afghans et de certaines agences de renseignement. Tout au long de l'année dernière, ou disons des deux dernières années, ce groupe a mené plusieurs attaques dans le sud du Pakistan, ce qui empêche désormais tout rapprochement entre Jamaat-ul-Ahrar et les dirigeants pakistanais. C'est donc pour cette raison, parce qu'ils sont dos au mur, qu'ils n'ont pas d'autre choix que de poursuivre leur guerre contre le Pakistan. Et c'est, je crois, pour cette raison qu'ils sont opposés au pourparlers entre le Pakistan, les talibans et le gouvernement afghan.
Cette organisation, Jamaat-ul-Ahrar, elle avait vivement condamné l'attentat contre une école militaire publique à Peshawar le 16 décembre 2014, un attentat qui avait d'ailleurs provoqué une offensive d'envergure inédite des autorités pakistanaises envers les groupes talibans.
L'attaque de cette école à Peshawar a été un électrochoc. Elle a choqué absolument tout le monde, militaires, civils, partis politiques. Tous ont été horrifiés par l'énormité, la férocité et la brutalité de cet attentat. Et vous savez, s'il existait des différences d'opinion parmi la population et les autorités pakistanaises quant à l'approche à adopter vis-à-vis des rebelles, ces différences ont soudain disparu pour faire place à une sorte d'union sacrée où tout le monde s'est accordé à dire qu'il fallait faire quelque chose pour mettre fin à cette situation au Pakistan. Donc en un sens, cet événement a soudé les Pakistanais. Mais pour ce qui est des mesures prises, bon, le fameux plan d'action national, comme on l'appelle au Pakistan, a été élaboré et officialisé. Il appelle à une plus grande coopération entre civils et militaires pour éradiquer les causes du terrorisme et pour mettre fin aux activités terroristes. Il s'agit également d'agir au niveau des madrassas, qui feraient le lit des terroristes. Et l'une des mesures annoncées a également consisté à lever l'interdiction des pendaisons. Et effectivement, les pendaisons ont repris. Alors les autorités pakistanaises ont bien dit « ne seront pendus que ceux qui ont été impliqués dans des activités terroristes ». Mais la réalité est tout autre. Près de 70% des personnes pendues n'avaient absolument rien à voir avec le terrorisme en tant que tel, vous savez. Seuls 30% des condamnés étaient bel et bien impliqués. Et puis, il faut bien voir une chose. Ces terroristes, ce sont des kamikazes. Ils sont extrêmement motivés. Ils n'ont pas peur de perdre leur vie pour leur mission. Donc je ne pense pas que le fait de les pendre changera quoi que ce soit à leur motivation et à leurs activités.
Vous diriez, vous, Saifullah Khan Massoud, que cette réponse, uniquement coercitive, disons, elle est insuffisante? Et peut-être dans un deuxième temps, dans quelle mesure les insurgés talibans pakistanais représentent toujours une menace pour l'État?
Écoutez, c'est déjà ça. Pour l'instant, la réaction des autorités pakistanaises est cinétique. C'est l'usage de la force à tout craint, mais le problème des rebelles au Pakistan est très ancien, ses racines sont profondes. Alors vous savez, la réponse doit être stratégique et l'état d'esprit doit changer. Ce n'est pas encore le cas et cela prendra du temps, c'est certain. Mais si vous regardez les chiffres, les statistiques des attentats menés l'année dernière ou au cours des deux dernières années, si on compare ces chiffres à ceux de la période précédente, on constate que la sécurité s'est quand même beaucoup améliorée. Et attention, les talibans ne sont pas une menace directe pour l'État, vous savez, ils n'ont jamais été en mesure de prendre le pouvoir au Pakistan, et ils ne le seront jamais, et ce pour plusieurs raisons. La première, c'est que le peuple pakistanais ne partage pas les opinions des talibans. Et deuxièmement, le Pakistan est un État très fort, avec une armée très puissante. Par conséquent, un groupe d'insurgés comme les talibans ne pourra jamais prendre le pouvoir au Pakistan. Cela étant, ils conservent leur pouvoir de nuisance et peuvent encore organiser des attentats contre des civils ou des institutions de l'État, comme ils le font encore de temps à autre. Mais leur pouvoir a beaucoup baissé. Il y a encore quelques années, on avait des attentats presque tous les jours et dans tout le pays. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Karachi, Lahore, Peshawar, ils pouvaient attaquer absolument partout. Ils avaient les réseaux nécessaires, mais depuis l'attentat contre l'APS, l'école publique de l'armée à Peshawar, nous sommes mieux coordonnés et des opérations de renseignement sont montées dans tout le Pakistan, ce qui affaiblit le réseau et les installations des talibans. Leur organisation est démantelée, ils ne peuvent plus préparer leurs attentats aussi facilement qu'avant et les opérations de renseignement à l'intérieur des villes pakistanaises ont porté un coup à tous les réseaux, ou en tout cas la plupart. Ils sont donc sur la défensive, même s'ils peuvent encore organiser des attentats ponctuellement. Cela reste un sujet d'inquiétude au Pakistan, mais comme je l'ai dit, ils n'ont jamais été en mesure de prendre le pouvoir au Pakistan et ils ne le seront jamais.
Démantelé, sans leader connu ou reconnu par tous, vous diriez, vous, que le TTP, le Tehrik-e Taliban Pakistan, est désormais hors d'état de nuire?
Le TTP tel que nous le connaissions, ce TTP-là, n'existe plus. Au départ, il s'agissait d'une organisation qu'on appelle Parapluie. Plusieurs organisations rebelles et religieuses originaires de tout le pays s'étaient réunies en une seule plateforme et avaient constitué cette organisation qui affichait un semblant d'unité, même si, à cause de la nature de l'organisation et parce qu'elle était engagée dans une guérilla contre les autorités pakistanaises dans tout le pays, elle n'a jamais été centralisée autour d'un seul organe, par exemple. C'était une organisation très décentralisée, au contraire, et les chefs des groupes des différentes régions étaient libres de prendre leurs propres décisions, même si de temps à autre ils se réunissaient au sein de la Shura, le conseil des anciens du TTP, pour prendre des décisions communes. Mais cette organisation n'existe plus. Cela a commencé par la mort de Baitullah Mersoud. Ensuite, il y a eu des divergences entre Hakimullah Mersoud et Wali Ur Rahman sur des questions de leadership. Et lorsque Wali Ur Rahman est mort tué par un drone, puis que Hakimullah Mersoud a été également tué par un drone, eh bien là, l'organisation a explosé. Khan Saïd Sajna, qui était le chef du plus grand groupe au sein du TTP, les Mersoud, a dans un premier temps pris la tête de l'organisation. Mais Fazlullah et ses alliés s'y sont opposés et l'organisation, en tant que telle, n'existe plus aujourd'hui.
Saifullah Khan Massoud au micro de Clémence Alézar. Saifullah Khan Massoud qui est directeur du Fatah Research Center, un cercle de réflexion basé à Islamabad. Réaction avec vous, Karim Pakzad, ici en plateau, réaction libre. Et puis, je voudrais qu'on revienne aussi peut-être sur, évidemment, ce terrible attentat de décembre 2014 sur cette école militaire de Peshawar qui avait fait 141 morts. C'est vrai qu'à l'époque, les autorités avaient pris un certain nombre de mesures. Alors, il y avait les mesures, bien sûr, symboliques, comme le rétablissement de la peine de mort pour les terroristes, et puis des mesures disons plus concrète, avec le lancement d'un certain nombre d'opérations armées, notamment ceux qui visaient les insurgés étrangers et locaux se cachant dans le Waziristan du Nord. On se disait à l'époque que c'était un tournant, finalement, de la lutte anti-taliban menée par les Pakistanais. Est-ce que plus d'un an après, vous avez le sentiment que le virage a été bien pris? Ou il faut nuancer, Karim Pakzad?
Oui, l'attentat de l'année dernière, il y a un peu plus d'un an, exactement, parce qu'il y a quelques semaines, on a célébré l'anniversaire de cet attentat extrêmement meurtrière. Cet attentat a effectivement a constitué un tournant au Pakistan. Un tournant parce que d'abord, d'après l'ampleur des victimes, la nature des victimes, les jeunes enfants, et puis qui étaient l'enfant des officiers.
Et c'était ça aussi qui était très nouveau, c'est-à-dire absolument. Que c'était des enfants de cadres très importants de l'armée pakistanaise, voilà. Et c'est peut-être ça qui a changé la donne.
C'était pas n'importe quelle école, ouais. Une école qui enseignait, enfin préparait les enfants des officiers pour la relève, quoi, la relève de l'élite de l'armée pakistanaise. Et donc, tout cela a créé une énorme émotion au Pakistan à ce moment-là qu'on n'avait jamais vu ça. À partir de là, on a vu...
De nature à cesser d'être bienveillant à l'égard des talibans
de nature à cesser d'être bienveillant vis-à-vis des talibans, ceux qui luttaient contre en Afghanistan, même à partir de... du territoire pakistanais, et cesser, et surtout à être, et puis, comment on peut dire, de l'encourager à prendre des mesures plus fermes contre TTP, les talibans pakistanais.
Karim Pakzad, vous vous souvenez quand il y a eu cette offensive, justement, au milieu de l'année, qui est une conséquence directe de cet attentat-là, on avait pris soin de ne pas trop s'en prendre aux talibans afghans, justement, dans un certain nombre d'opérations, c'est ce qu'on avait appris.
Exactement, c'est-à-dire on a demandé aux talibans afghans d'éviter maintenant davantage d'aller et venir sur le territoire pakistanais, parce que le Taliban Pakistan avait décidé à partir de ce moment-là de lancer des opérations militaires contre TTP d'une manière beaucoup plus conséquente. Ce que s'est produit, Ce que s'est produit, votre interlocuteur tout à l'heure, Saïf Allah Massoud, il a bien souligné que Pakistan a obtenu beaucoup de succès contre TTP et a été désorganisé. Ses chefs ont été tués. Mullah Fazlullah, qui a succédé comme chef de TTP, était obligé de se réfugier en Afghanistan. Il n'est plus au Pakistan. Et l'Waziristan Sud, qui était un repère des talibans pakistanais, a été nettoyé. Mais le contre-coup de tout ça, c'est que ces gens-là, ces militants des talibans pakistanais, ceux qui n'ont pas été tués, sont réfugiés de l'autre côté de la frontière en Afghanistan. C'est la raison pour laquelle, si on assiste à la montée de violence en Afghanistan, si on assiste à l'adhésion de certains des talibans pakistanais à l'État islamique, à Daesh, cela aussi, c'est le contre-coup de cette opération. Vous savez, la situation est extrêmement compliquée dans cette région-là. Lorsqu'on obtient la victoire sur un plan, il est tout à fait possible qu'on le perde sur un autre plan.
Karim Pakzad, et puis peut-être en guise de conclusion, avant de s'intéresser à la Libye avec Patrick Hamzadeh qui est avec nous par téléphone, on va le prendre dans un instant. On a très bien compris, Karim Pakzad, que la clé dans tout ça, dans cette reprise du dialogue, ça va être la position du Pakistan. Il va falloir qu'Islamabad fasse pression sur les talibans. Est-ce que c'est une option qui vous paraît désormais possible et à quelles conditions? Est-ce que, par exemple, si le Pakistan faisait entendre à l'Afghanistan qu'il faut cesser peut-être ce rapprochement avec l'Inde dont on parlait en début d'émission, est-ce que ça pourrait être de nature à décider le Pakistan à aller dans le sens des négociations, dans le sens d'un accord?
Je pense que la chance d'aboutir ces négociations aujourd'hui avec Ashraf Ghani, actuel président, est beaucoup plus grande que n'a été avec Hamid Karzai. Certaines des demandes de Pakistan ont été même acceptées ouvertement par Ashraf Ghani, notamment ses demandes vis-à-vis de l'Inde. Pour satisfaire le Pakistan, Ashraf Ghani, par exemple, a suspendu un contrat d'achat ou de fourniture des armements lourds de la part de l'Inde à l'armée afghane. Il a suspendu d'envoyer plusieurs centaines des officiers afghans pour être formés en Inde. Tout cela, il a fait pour donner des gestes de bonne volonté au Pakistan, parce qu'Ashraf Ghani, avant même d'être élu président de la République, il a été la réputation dans l'Afghanistan d'être proche des talibans.
Donc la paix comme horizon, c'est plus vrai que jamais.
Non, il y a beaucoup plus de chances aujourd'hui qu'hier, mais encore voilà. Tout dépend de l'attitude de Pakistan.
Ouais. Karim Pakzad, on va s'intéresser à présent à la Libye. Depuis 2014, la Libye est dans une crise profonde avec deux autorités politiques qui se disputent le pouvoir, l'une basée à Tripoli et puis l'autre, la seule reconnue par la communauté internationale, qui est basée dans l'est du pays, à Tobrouk. Ça fait des mois qu'on espère qu'il va y avoir un accord peut-être entre les deux entités et peut-être un accord qui mettrait peut-être même en place un gouvernement d'union nationale. Et depuis quelque temps, outre les deux parlements, on a aussi deux accords. Le premier qui a été signé à Tunis, où s'étaient rencontrés des représentants des deux chambres au début décembre. C'était un processus de discussion alternatif à celui des Nations Unies qui jusque-là n'avait rien donné. Et puis quelques jours plus tard, il y a un accord qui a été signé au Maroc, cette fois sous l'égide des Nations Unies.
À dater d'aujourd'hui, cet accord met en place un système d'institutions légitimes pour assurer la paix, la sécurité et la prospérité en Libye. Votre présence aujourd'hui montre votre engagement à relancer la transition politique en Libye.
Voilà, on entend les applaudissements, des cris, Libya, Libya. On entendait la voix de Martin Kobler, l'émissaire des Nations Unies, lors de cet accord trouvé en Tunisie. Mais malheureusement, assez vite, les chefs des parlements ont fait savoir qu'ils ne reconnaissent aucune valeur à cet accord-là, raison pour laquelle Kobler a rencontré, là, cette semaine, des responsables des deux camps. Bonjour Patrick Hamzadeh.
Oui, bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes ancien diplomate français en Libye. On est dans une situation complètement ubuesque, Patrick Hamzadeh, où on a trouvé un accord entre les deux entités. Mais comme les Nations Unies en étaient exclues, elles ne le reconnaissaient pas. Et puis on a l'accord signé au Maroc, lui sous l'égide des Nations Unies, qui lui n'est pas reconnu par les acteurs libyens. qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve dans cette situation complètement folle?
Tout à fait, en fait, c'est vrai que c'est un enchaînement de circonstances. D'abord, il faut dire qu'on a eu un premier accord en juillet, hein, qui était qui n'a pas débouché finalement, parce qu'il a buté notamment sur les noms. Alors ça, c'est au mois d'octobre. Et ensuite, on a eu le fameux scandale, enfin, de l'ancien émissaire de l'ONU, qui a été compromis avec un des pays qui soutenait une des parties en conflit, les Émirats Unis, puisqu'il postulait pour un poste, pour un emploi très bien rémunéré là-bas après sa mission de l'ONU. Donc ça a mis un coup au processus onusien. Et donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, il y a eu, quand le nouvel émissaire est arrivé, pour aller plus vite, hein, il avait une pression énorme, bien sûr, de la communauté internationale, surtout des Occidentaux, après les attentats du mois de novembre en France. Et donc, il a modifié un petit article de cet accord de juillet, qui n'est pas grand-chose, mais qui, en fait, imposait la validation d'un gouvernement d'union nationale par les deux parlements, de Tobrouk et de Tripoli. Donc ça, c'était une des conditions. Il l'a fait supprimer, parce qu'effectivement, il se disait que ça prendrait trop de temps, que c'était trop long, et qu'il fallait très vite un accord. Donc bien sûr, ça a eu comme conséquence quasi mécanique que les présidents des deux parlements se sont sentis écartés du processus et donc ont essayé de lancer cette initiative que vous avez évoquée tout à l'heure début décembre d'un dialogue libo-libyen où effectivement ils se retrouveraient entre eux et
où on a trouvé un accord, Patrick Hamzadeh. C'est-à-dire qu'on est dans une situation, mais vous allez me dire ce que vous en pensez, où on a l'impression qu'on parle de dialogue aujourd'hui. Finalement, le dialogue, il a l'air plus difficile entre les Nations Unies et les Libyens qu'entre les Libyens eux-mêmes.
Disons que entre les Libyens, alors ce qu'il faut dire, c'est que ça peut paraître effectivement comme ça, mais maintenant de l'intérieur, chacune des entités de Tripoli et de Tobrouk sont très divisées. Donc ça, je l'avais dit il y a quelques semaines, quelques mois. Donc si vous voulez, ces deux dialogues en cours reflètent aussi les divisions au sein des deux parlements. Donc bien sûr, il y a des gens au sein des parlements respectifs qui veulent suivent la voie de leur président de parlement et la voie libo-libyenne. Donc, vous voyez, ils se parlent, tout le monde se parle en Libye. Hein. C'est pour ça que ce que je dis aussi depuis assez longtemps, c'est il faut vraiment encourager ces dialogues. On n'est pas dans la situation de la Syrie où, effectivement, on a une rupture beaucoup plus violente et des haines beaucoup plus tenaces.
Oui, parce que je dois dire, Patrick Hamzadeh, à l'époque où on en avait parlé, c'était quelques semaines avant l'accord, justement, on demandait si cet accord était possible. Il n'y avait pas grand monde autour de la table qui y croyait, pas grand nombre des observateurs disaient que c'était possible. Or, vous, précisément, vous disiez que l'accord était possible. Je ne sais pas ce qui forgeait votre conviction à l'époque, mais c'était votre conviction, en tout cas.
Oui, bah c'est cela, c'est la connaissance du terrain, puis des principaux acteurs aussi. Donc je pense que maintenant on a deux accords, comme je disais maintenant, mais les choses évoluent très vite. Hein. Alors le pari de l'ONU, ça a été d'aller vite, hein, ça a été d'aller vite, de forcer la main, je dirais, puisque la faiblesse de l'accord de Sreirat du Maroc que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est qu'en fait il a été signé par des représentants qui n'avaient pas été mandatés officiellement par leurs institutions. Bon, donc ça c'est une première faiblesse. Ensuite, il y a notamment la grande majorité des gens à l'Ouest, ce qu'on retrouvait dans le Parlement de Tripoli il y a un an, qui ne se reconnaît pas et qui ne validera pas cet accord. Donc, je crains qu'on se retrouve un petit peu dans la situation, finalement, d'août 2014, souvenez-vous, où la communauté internationale avait reconnu officiellement le Parlement de Tobrouk comme seule instance légitime, et toute la partie ouest, finalement, la partie la tripolitaine, enfin, qui était derrière le Parlement de Tripoli, n'était pas engagée dans cette reconnaissance.
Donc, en gros, on a intégré
dans le jeu, ouais. C'est ce qu'a fait l'ONU, puisque finalement, de facto, on a remis ces gens dans la négociation. Et là, ce que je crains un petit peu, c'est qu'à nouveau, les plus durs, mais enfin, il y a quand même une grande partie des milices qui tiennent Tripoli, il y a une grande partie des milices de Misrata aussi, rejettent cet accord onusien, et donc risquent tout simplement d'empêcher ce nouveau gouvernement de revenir siéger en Libye. Donc là, on n'aura plus deux, mais trois gouvernements. Ouais, ouais. Vous voyez, c'est
ouais, donc on a un accord, mais on n'est quand même pas, on n'a pas encore ce gouvernement d'union nationale qui pourrait émerger de cet accord-là. L'un des grands enjeux aussi, Patrick Nzadeh, je voudrais qu'on finisse là-dessus, il nous reste à peine deux minutes, mais l'un des grands enjeux, ça va être aussi pour la Libye de savoir quel rôle on accorde au général Haftar, qui est l'actuel chef de l'armée libyenne, l'armée nationale libyenne, qui avait lancé cette grande offensive, on s'en souvient, contre les djihadistes l'année dernière. Ça va être décisif aussi dans les négociations. Qu'est-ce qu'on fait de cet ancien kadhafiste?
Voilà. Alors, tout à fait. Et là, bon, certaines rumeurs en Libye disent que Martine Kobler, qui a rencontré le général Haftar juste quelques jours avant la signature de l'accord, lui aurait donné des garanties sur un éventuel poste de ministre de la Défense. Bon, c'est pas confirmé, mais en tout cas, il a nommé deux proches. Il a fait nommer deux proches à lui dans le conseil présidentiel, qui est l'ossature du futur gouvernement du non national. Et ça, bien sûr, c'est un motif de rejet immédiat pour la partie pour les gens de l'Ouest, hein, pour les gens de Tripoli. Donc, bien sûr, Haftar continue à être une pierre d'achoppement, hein, et donc son sort n'est pas joué. Mais en tout cas, s'il est dans un futur gouvernement, ça compliquera fortement les choses, notamment à l'Ouest.
En tout cas, ce qui est a priori la position des États-Unis, parce que c'est un homme, faut-il le rappeler, qui est proche des États-Unis, qui a vécu plusieurs années aux États-Unis, pas très loin de l'anglais d'ailleurs, en Virginie, j'ai vu ça, lisant sa fiche Wikipédia, parce que l'anglais, c'est pas n'importe quoi, c'est là où il y a le siège de la CIA quand même, hein.
Bah, c'est le siège de la CIA. Donc il y a un jeu assez curieux, d'autant plus que là aussi, trois jours avant l'accord, avant le fameux accord du Maroc, il y a eu des forces spéciales américaines qui ont été vues. Alors c'est assez rocambolesque comme d'habitude en Libye, mais elles ont été des hommes armés en civil, se présentant comme des forces spéciales, qui ont été mises en photo sur un site Facebook donc de l'armée libyenne, hein, donc du général Haftar. Et ça a été ensuite confirmé par le Pentagone qu'il y avait la présence de forces américaines. Alors là aussi, ça veut peut-être pas dire grand-chose, mais en tout cas, s'ils ont été mis sur Facebook, ça voulait dire que les gens d'Haftar voulaient montrer que ils avaient un soutien américain dans cette affaire, ce qui est là aussi assez maladroit, parce qu'à partir du moment où on dit vouloir dialoguer avec les deux parties, se faire prendre sur le terrain avec une des deux parties en conflit, ça augure mal de l'objectivité de la communauté internationale dans cette affaire.
En tout cas, merci beaucoup Patrick Nzadeh d'avoir été notre invité ce matin. Je rappelle d'ailleurs votre ouvrage Au cœur de la Libye de Kadhafi, qui était paru chez Jean-Claude Lattès. Et puis un grand merci à vous, Karim Pakzad, pardon, de nous avoir accompagnés également pour voir cette question délicate qu'il faudra suivre dans les semaines qui viennent autour de ce dialogue sur les talibans afghans, où interviennent évidemment le Pakistan, mais aussi la Chine et les États-Unis, et peut-être moins officiellement aussi l'Inde. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Dans un instant sur France Culture, c'est La Grande Table avec Caroline Brouet. Mais juste avant de la retrouver, comme chaque jour, La Vie Moderne. Très belle journée et à demain.